Chapitre 18. La question des disciples, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» indique qu'à ce moment, leurs pensées étaient entièrement occupées par le royaume. La réponse montre avec la plus grande clarté que la seule façon d'y entrer, c'était de devenir petit et non pas grand. Le résultat de la conversion est qu'on s'humilie et qu'on devient comme un petit enfant. À défaut de cela, on n'est pas du tout dans le royaume. Puis on y progresse de la même manière qu'on y entre. Par conséquent, celui qui est le plus humble dans ce royaume se trouve y être le plus grand. Il fallait que les idées des disciples sur ce sujet soient changées, et trop souvent, il le faut pour nous aussi. Il est évident que le Seigneur parle ici du royaume non pas en tant que la sphère dans laquelle le mal devra être ôté, comme dans le chapitre 13, mais en tant que la sphère caractérisée par une réalité vitale. Pour répondre à cette question, Jésus a appelé un petit enfant et l'a placé au milieu d'eux comme exemple vivant. Il va leur montrer qu'un petit enfant tel que celui-ci, s'il est reçu en son nom, devient quelqu'un de très important. Le recevoir équivaut à recevoir le Seigneur lui-même. Dans les versets 2 à 5, il s'agit du petit enfant. Au verset 6, c'est un de ces petits qui croit en moi. Être une occasion de chute pour l'un de ceux-ci est passible du jugement le plus sévère, et cela conduit le Seigneur à placer ses disciples dans la lumière des choses éternelles. Il existe un feu éternel, et mieux vaut sacrifier n'importe quoi plutôt que de le subir. Les versets suivants, jusqu'au verset 14, traitent encore des petits-enfants. Il y a trois raisons pour ne pas les mépriser. Premièrement, ils sont les objets constants du ministère des anges et sont représentés par ceux-ci devant la face du Père dans les cieux. Deuxièmement, ils sont les objets de la grâce du Sauveur en salut. Troisièmement, la volonté du Père est de les bénir. Il ne veut pas qu'un seul d'entre eux périsse. Parole pleine de douceur et de consolation pour ceux qui ont perdu un de leurs petits dans le jeune âge. Elle donne l'entière assurance de leur bénédiction. La comparaison du verset 11 avec Luc 19, verset 10 est instructive. Il s'agit là d'une personne adulte qui a eu tout le temps de s'égarer. Aussi le mot « chercher » est-il employé. Ici, où il est question du petit enfant, ce terme est omis. La tendance à s'égarer est bien là, comme les versets 12 et 13 l'indiquent, mais l'égarement n'est pas mis en compte de la même manière avant que l'âge de responsabilité soit atteint. Ainsi, les versets 1 à 14 traitent du petit enfant et du royaume. Les versets 15 à 20, du frère et de l'assemblée. Au chapitre 16, versets 18 et 19, nous avons eu l'assemblée et le royaume. Tous deux réapparaissent ici. S'agit-il d'un petit enfant, nous avons tendance à l'ignorer et à le mépriser. S'agit-il de notre frère, il y a la triste propension à ce que des désaccords et des offenses surgissent, et c'est ce dont le Seigneur va s'occuper maintenant dans son enseignement. Nous avons des instructions précises quant à la marche à suivre. Leur non-observation a produit d'énormes dégâts. Si un frère m'a offensé, ma première démarche consiste à le voir lui seul et à lui signaler son tort. Si j'agis ainsi dans le bon esprit, je le gagnerai très probablement et nos relations seront rétablies. À mon tour, évidemment, je verrai peut-être que mes pensées avaient besoin d'être rectifiées, car la situation n'était pas telle qu'elle paraissait. Mais il se peut que ce frère ne m'écoute pas, et alors il faut que j'aille vers lui avec un ou deux autres comme témoins pour que le mal qu'il a commis soit placé devant lui d'une manière plus précise et plus impartiale. Ce n'est que s'il persiste dans son obstination que l'assemblée doit être informée, afin qu'il entende la voix de tous. S'il va jusqu'à ne pas vouloir écouter la voix de l'assemblée, je dois alors le traiter comme quelqu'un avec qui il est impossible d'avoir communion. On remarquera que le Seigneur ne dit pas ensuite ce que l'assemblée devait faire. Sans doute parce que les manquements sont de toutes sortes et de différents degrés de gravité, et qu'aucune instruction ne s'appliquerait à tous les cas. Toutefois, Le verset 18 laisse entendre qu'il y aurait des occasions où l'assemblée aurait à lier le méchant et d'autres où son action devrait être dans le sens de délier. Nous voyons ici que ce qui précédemment était pour Pierre seul est dit maintenant à l'assemblée. L'exécution fidèle d'un tel mandat implique beaucoup de dépendance de Dieu et de prière. En outre, même dans les jours du début et dans les circonstances les plus favorables, il aurait souvent été pratiquement impossible de réunir toute l'assemblée dans un même lieu. Aussi, dans les versets 19 et 20, le Seigneur descend-il jusqu'au nombre le plus restreint de la pluralité pour montrer que la puissance de la prière et l'action de l'assemblée ne dépendent pas du nombre, mais de son nom. Dans le cas du petit enfant et du royaume, le point important était en mon nom. Dans le cas du frère et de l'assemblée, la chose décisive est de nouveau en mon nom ou à mon nom. C'est là que réside tout le poids de l'autorité. Le verset 20 est parfois cité comme décrivant une certaine base de communion vraie en tout temps pour ceux qui la réalisent. Or, le Seigneur ne parle pas ici de se retrouver simplement ensemble, mais d'être assemblé, c'est-à-dire qu'il parle d'une réunion constituée autour de lui comme seul centre. Son nom a une valeur telle que si deux ou trois seulement sont assemblés à ce nom, il est là au milieu d'eux. Fait qui donne de la puissance à leurs prières et de l'autorité à leurs actes. Il est présent spirituellement, non pas visiblement. Ressource merveilleuse et pleine de grâce pour des jours où l'assemblée ne peut pas être réunie comme un tout à cause de son état de ruine et de division. Nous avons lieu d'en être très reconnaissants, mais veillons à en éprouver, comme dit le cantique, et le pouvoir et la réalité. Ne pensons pas qu'il suffise d'occuper une position ecclésiastique bibliquement irréprochable pour qu'une prière soit écoutée ou une décision ratifiée dans les cieux. Nous ne pouvons demander ou agir au nom du Seigneur indépendamment de notre état moral. Avançons doucement, et tant que la volonté de Dieu ne nous est pas claire, soit pour donner, soit pour ratifier, humilions-nous et examinons nos cœurs et nos voies pour découvrir en quoi nous n'avons pas réalisé un vrai rassemblement en son nom. N'étions-nous pas, en fait, tout le temps occupés de nous-mêmes? Et notre état moral n'était-il pas mauvais? Au verset 21, nous voyons Pierre soulever l'autre aspect du sujet. Qu'en est-il, non plus du coupable, mais de celui qui a été offensé? La réponse de Jésus revient à ceci. L'esprit de pardon envers mon frère doit être pratiquement illimité. Là-dessus, le Seigneur prononce la parabole du roi et de ses esclaves, sur laquelle se termine le chapitre. La portée générale en est très simple. Le seul point que nous soulignerons est qu'elle se rapporte aux voies gouvernementales de Dieu envers ceux qui prétendent être ses esclaves. Nous le voyons clairement au verset 35 qui nous donne l'application qu'en fait le Seigneur lui-même. Le pardon éternel repose sur une base tout autre, mais le pardon gouvernemental dépend très souvent de l'esprit de pardon que doit manifester le croyant. Si nous traitons mal nos frères, nous nous retrouverons tôt ou tard entre les mains des bourreaux et nous connaîtrons des temps pénibles. Et si l'un d'entre nous voit un frère en traiter mal un autre, nous ferons bien d'imiter les esclaves de la parabole et de déclarer au Seigneur ce qui s'est passé, le laissant s'occuper du coupable dans son saint gouvernement, plutôt que de prendre la loi entre nos propres mains et d'attaquer celui qui a mal agi.